deuxième temps de cette semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux musiques noires. Après avoir hier tenté de remonter aux sources du blues et de la soul en compagnie de Sébastien Danchin, et avant demain de nous intéresser au reggae, et après-demain jeudi d'approcher dans le cadre des 24 heures de France Culture sur la francophonie les particularités des musiques créoles, nous allons ce matin, grâce au documentaire de Perrine Kervoan et Renaud Dalmar, essayer de comprendre comment et par qui le hip-hop est passé du Bronx au nord de Paris au début des années 80. Un transfert culturel qui n'est pas allé de soi, comme le racontent jusqu'à 10 heures dans la fabrique les pionniers de cette histoire, Dynasty, Gabin Nuissier, J-Wan, Jean Caraco, Mode Tou, Natacha, Sidney, qui il y a 30 ans lançait son émission H.I.P.H.O.P., Solo du groupe Assassin et encore Bernard Zécri. Un documentaire dont vous pouvez poursuivre l'écoute sur la page de la Fabrique grâce à la sélection des classiques du rap choisis par Antoine Villoz de la documentation musicale de Radio France et Renaud Dalmar.
One, two, one, two. One, two, Sydney's in the house.
Party people.
I get hip-hop.
Party people.
Yeah.
La rue donnait le signal. C'est un moyen d'exprimer la révolte extrêmement positif.
Du Bronx au terrain vague de la Chapelle, le hip-hop arrive en France.
C'était une façon de parler différente, une façon de s'habiller différente, une façon de marcher différente. Et il y avait une énergie qui était terrassante. Quoi. Vraiment, on sentait qu'il y avait cette capacité de renverser les montagnes. Quoi. Et c'était très joyeux aussi.
Ça ressemblait beaucoup à tout ce que je connaissais de funk et de disco et ainsi de suite. Mais c'était pas pareil. Enfin, pour moi, c'était tourné vers le futur.
Ils sont collégiens ou lycéens. Ils ne jurent que par la musique funk, ils aiment danser et se faire remarquer, ils veulent qu'on les regarde et ils rêvent d'Amérique. Ils habitent Paris ou la banlieue, souvent leurs parents ou leurs grands-parents viennent d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien. Ils vont des Halles au Trocadéro, en passant par le Bataclan, à côté du métro Colonel Fabien. Ce sont des adolescents qui attendent quelque chose de neuf, une musique, une mode, un pas de danse qui ne serait qu'à eux. C'est le début des années 80 et le hip-hop arrive en France.
Je rappellerai toujours cette scène où on était au Troca, en train de s'entraîner. Et là, on savait qu'il y avait deux de nos amis qui étaient partis à New York, qui étaient revenus donc avec une cassette.
Natacha est une des rares danseuses dans ce monde de garçons et une des premières à oser prendre le micro pour rapper.
Et ils nous ont dit, hey, les gars, il y a une nouvelle danse qui est sortie aux États-Unis. Et il y avait un mec avec une casquette qui avait des gants blancs et il s'est mis à faire la marche arrière, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui le moonwalk. Et donc on s'est tous entraînés notre gars. Et ça a commencé à faire du monde autour de nous.
Tous ceux qui sont férus de culture un petit peu américaine, que ce soit le skateboard, le football américain ou les rollers, le Trocadéro et Montparnasse, c'était un peu les endroits où tout le monde se retrouvait.
Solo est un lycéen mal orienté, un cancre en attente d'une opportunité qui danse pour le plaisir et pour la fame.
Ce qui met le feu aux poudres, c'est des danseurs californiens et new-yorkais qui sont venus à Paris, je crois, à l'été 81, et qui donc, pour se faire un petit peu de thunes et pas être en galère, faisaient la manche. Si mes souvenirs sont bons, c'est Sugar Pop, Mr. Freeze, donc qui est un français, Popmaster Fable. Ces mecs viennent, dansent là, tout le monde le voit. Et ça met vraiment le feu aux poudres.
Qui est-ce qui venait là?
Je dirais c'était du 12, 13, 14 ans jusqu'à 18, 19 ans, 20 ans grand maximum pour la tranche d'âge. Après, c'est un mélange assez subtil de banlieusards mais aussi de parisiens et quand même beaucoup de gens qui sont à l'affût de culture américaine et aussi les traînards. Au début je traînais, mais vraiment j'étais dans une phase de traînard quoi. On se fait chier dans notre banlieue, bon bah viens, on va sur Paris. Au début c'était vraiment pour y faire des conneries. Et maintenant, on sait que là, c'est une source de savoir, ou en tout cas d'infos, de cette nouvelle chose.
Saint-Denis, porte de Paris. quand je suis arrivé au Bataclan, j'avais les Joyce, les Papson, des Africains, ils venaient avec leurs valises. Et puis en même temps, ils faisaient des chorégraphies au ralenti avec des jeux de boxe, des jeux de pulsion et de résonance.
Gabin Nuissier, déraciné tout jeune de la Martinique, ne sait pas trop quoi faire de son avenir. La danse hip-hop va lui tracer un futur, il va fonder les Actuelles Forces.
On sentait qu'il y avait déjà une maîtrise à cette époque-là. Bien que d'aller dans cette boîte-là, ça a été quelque chose qui a assis cette culture. Nous, les petits jeunes, on payait 20 francs, on partait tout le temps au Colonel Fabien, on était là-bas, on se rencontrait, on pouvait danser, parler de danse, on repartait chez nous, on s'entraînait, et ce Bataclan, c'était le lieu presque sacré. Dans les années 82, on va dire que j'écoutais beaucoup, puisque je suis de culture caribéenne, je suis de la Martinique, et beaucoup de funk, et puis tout d'un coup, des musiques électroniques commençaient à survenir. Et il y avait cette musique d'Herbie Hancock. Tout de suite après, ça a été des échos de Roxelli Crew Tour. Donc c'est le Roxelli Crew Tour qui est arrivé dans les années 82. Non, des amis m'en parlaient. C'était de la danse, mais à un niveau très spectaculaire, parce que ces gens-là, ils faisaient quand même des mouvements au sol, des mouvements acrobatiques que je n'avais pas l'habitude de voir, qui tournent aussi sur la tête, qui chutent. Tu te dis, ouf, ça c'est beau. Et dans ma cité, on en parlait au fur et à mesure. Entre un ami, l'autre, il disait ça, Gabin, tu as vu, je fais du smurf, enfin, c'était comme ça. Ça a été vraiment le bing-bang.
On ne comprend pas. On se dit, il y a un truc qui se passe aux États-Unis qu'on est en train de rater. Voilà, c'était plutôt ça. Une espèce de malaise qui m'envahit. Disant, qui danse comme ça ?
Il y a eu le début très concret de l'arrivée du hip-hop dans New York, c'est-à-dire qu'il y a une fille qui s'appelle Lady Blue.
Bernard Zécry est journaliste et c'est lui qui organise le New York City Rap Tour.
Lady Blue, elle est manageuse du Rocksteady Crew, qui est la première troupe de danseurs, de breakers, et elle réussit à s'installer une nuit par semaine dans un tout petit club qui s'appelle le Negril. C'est un club jamaïcain. Je passais devant, ce truc était tout le temps vide et désert. Donc à Blue arrive, lance ses soirées. Il y a deux DJ, soit Bambata, soit DST. Et puis, bon, voilà, il y a les danseurs qui viennent. Mais vraiment, en deux ou trois semaines, c'est l'émeute, quoi. Il y a une queue interminable dehors, tout le monde est là, les filles dansent en sandwich avec les breakers du Bronx, des choses qu'on n'avait jamais vues à New York. C'est un truc fabuleux. Et très vite, les pompiers vont faire fermer l'endroit parce qu'il y a trop de monde, etc. Et là, elle va s'installer au Roxy. On est dans les années 80, il faut savoir ce que c'est que l'Amérique à l'époque. Il n'y a pas de couple mixte dans la rue, on voit pas. On a l'impression que c'est très très loin, ça, parce que c'est Obama qui est président aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y a pas un black avec une blanche dans une boîte de nuit, ça n'existe pas. Un black qui essaie de prendre un taxi en 80 au milieu de la nuit à Manhattan, mauvais plan, hein, bonne chance. Donc il y a ça, et il y a ces gars-là qui, en fait, viennent de pas très loin, mais ils viennent de très très loin, si, ils viennent du Bronx, c'est de l'autre côté de l'autre bout du monde. Donc pour eux, ils sont comme dans un magasin de jouets, c'est la première, voilà, ils sont en Manhattan. Et donc c'est comme une farce, comme un bon coup qu'ils font au reste du monde.
J'avais été exilé à New York au début des années 80.
Jean Caracos ne jure que par la musique qui a quelque chose de constructif à dire sur le monde. Et c'est comme ça que le hip-hop va rentrer chez Celluloid Disc.
Et Bernard m'avait parlé de cette chose bizarre qui était le hip-hop. Et moi, j'avais déjà entendu les Last Poets, des trucs comme ça, mais pas le hip-hop. Et Bernard m'a fait écouter des choses, m'a emmené dans des concerts où j'étais extrêmement surpris de voir des DJ qui avaient deux turntables. Et ces gars-là avaient trouvé moyen de faire des musiques extraordinairement dansantes et créatives avec les disques produits par les Blancs. Et donc, ils arrivaient à faire des soirées comme ça entières où il y avait la musique du DJ, des rappeurs qui rappaient sur cette musique et des breakdancers qui dansaient devant, avec de temps en temps, derrière la scène, un graffiti painter qui faisait des graffitis. De voir toute cette énergie créatrice qui ressortait comme ça du Bronx pour des gens qui n'avait a priori pas de culture artistique développée, mais c'était une culture de rue. Et la Nation Zoulou nous expliquait que pendant ce temps-là, ils ne s'entretuaient pas, et que donc c'était pour eux quelque chose d'extrêmement positif.
Et moi, à ce moment-là, je me dis, quand même, on devrait faire ce plan de faire une tournée en Europe. Nous, on n'est absolument pas pro, on n'a même pas l'idée de ce que c'est qu'un spectacle, etc. Ce qu'on sait faire, c'est des rap parties, en fait. Donc, je viens à Paris. Le premier truc, c'est passé au Bataclan. Et donc, le Bataclan, d'abord, c'est pas plein. On est quand même étonné parce qu'il y a le Rocksteady Crew, il y a Ramelzi, DST, Bambata, il y a Futura, enfin il y a des peintres, c'est un gros truc notre.
J'ai travaillé sur une radio libre qui s'appelait Arc-en-Ciel, où j'avais une émission de funk, mais je jouais toutes les nouveautés. Donc les nouveautés, c'était aussi ce qui se passait en rap.
Dynasty est tombé dans le hip-hop sans le savoir à San Francisco. Musicien, collectionneur de disques, animateur radio, le hip-hop, pour lui, c'est la providence. Il se rêve DJ.
Au Bataclan, bah, c'était bien blindé. Hein, et on était assez proches. Puis à un moment, les Rocksteady Crew se sont descendus dans la salle, donc ils ont fait un cercle. Personne n'avait l'habitude, et moi-même, comme je ne pouvais pas rentrer dans les clubs aux États-Unis, donc je ne savais pas comment ça se passait. Donc tout ça c'était super émouvant et c'était une grosse claque. Après pour le côté DJ, il y avait DST et Bambata qui étaient perchés, donc on entendait ce qu'ils faisaient, mais on les voyait bouger, mais on savait pas trop comment ça se passait, quoi. Pour la plupart des gens, ils ont découvert le lendemain dans l'émission de Menval qui s'appelait Megahertz, où justement il y avait un reportage sur ce qui s'était passé la veille au Bataclan.
Alors je regarde cette émission. D'abord, je suis bien subjugué par ce que je vois.
Zoulou.
Pour moi, c'était tourné vers le futur. Dans la manière dont ça dansait. De dessiner comme ça un peu sur les murs avec des bombes. Et tout de suite après, je pousse la table basse du salon. Je fais un peu de place pour commencer tout de suite à essayer de refaire ce que j'ai, je pense avoir compris de ce que j'ai vu. Dans la foulée, il y a eu Flashdance, où il y a eu ce petit bout au milieu du film. Il y a une démonstration de Mr. Freeze et des Rocksteady Crew. Le film, on a dû le voir, je sais pas, une centaine de fois, juste pour voir ces 30 secondes au milieu du film.
Il y avait l'actrice qui était l'actrice principale quand elle arrivait. Elle tournait à fond sur le dos.
Gabin Huissier.
Mais nous tous, avant que le film arrive, on savait qu'elle était doublée. Drago, ouais, non, elle a été doublée. Comme dans Beat Street, le petit qui tourne son 99, il a été doublé par un Kid Freeze et tout. Mais ça a été un super déclencheur.
Après le film, on a fini par se rendre compte que c'était un mouvement culturel et ainsi de suite, qui avait eu un autre film qui s'appelait Wild Style. Donc on était plus à l'affût de qu'est-ce qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus.
Marie-France Bruyère, qui était directrice de Radio 7, elle est donc nommée à la direction des programmes de TF1. Et on lui demande d'amener de nouvelles émissions, de donner un peu de fraîcheur à cette chaîne.
Sidney, DJ et musicien, vit à La Courneuve. Il s'occupe des jeunes du quartier. Il les fait danser et devient animateur d'une émission sur les musiques funk et électro-funk à Radio 7.
Et elle dit, bon, d'accord, ok, j'en ai une tout de suite. Là, ça va être sur le hip-hop, on va faire la France entière. On va apprendre à la France entière à tourner sur le dos. Un jour, elle vient, elle me chope et elle me dit, bon, écoute, voilà. Ce que tu fais à la radio, tu vas le faire à la télévision. Et comme il n'y a pas beaucoup de temps de passage, parce qu'ils ne veulent pas à TF1, j'ai juste un créneau le dimanche, après Starkey Hutch, ils ont un petit trou de 10 minutes. C'est là que tu vas faire l'émission, tu as 10 minutes. Et puis elle était très autoritaire, c'était comme ça, et c'est pas autrement, tu te débrouilles. Au bien sûr, j'ai appelé aux États-Unis, j'ai appelé Bambata, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut appeler l'émission hip-hop? Il me dit, oui, je voulais que ce soit un nom qui soit international, accessible à tous. Il me dit, mais si tu fais une émission sur le hip-hop, ça va être la première émission au monde. Il n'y a pas d'émission sur la culture hip-hop. On est en janvier 1984. J'ai dit, non, justement, il faut que tu me donnes aussi des rouages pour que je puisse. Et donc, les premières émissions, j'ai fait venir Bambata. Je fais venir tous ces gens qui sont les précurseurs pour bien sûr les présenter, pour leur expliquer donc à la France entière que c'est une culture vraiment pure. On ne fait pas une petite fête et c'est fini. Il y a vraiment un véritable mouvement. On a parlé de la Zulu Nation, vraiment. Et là, la première émission, la deuxième émission, et la deuxième émission, je l'ai faite en bas de l'immeuble parce que Bambata me disait justement de rester authentique. Le côté authentique qui était important pour moi. Je me suis rapproché, il me fallait aussi, il me disait, il faut que tu aies un gang de danseurs pour montrer aux Français, vous aussi, mettez-vous en bande, mais pas en bande de méchants, en bande de danseurs, de rappeurs.
Un jour, je vais, un après-midi, je sèche l'école, ou je ne sais pas ce que je fais, mais je me retrouve au Trocadéro.
Solo.
Deux gars qui passent par là et qui me font, ça te dirait de danser à la télé et tout, faire un truc, est-ce que tu veux venir avec nous? Bah ouais. Et on se retrouve à danser le vendredi qui suit en direct avec Julien Clerc sur le. J'entends qu'on rit derrière. Sur son morceau Cœur de Rocker. Et on se retrouve à smurfer là-dessus.
J'ai essayé de trouver tous les éléments pour faire cette émission, qu'elle soit grand public. Et avec le mélange des couleurs, donc c'est aussi une première émission où on voyait Mohamed, Toufik, Mamadou à la télévision. Et on savait pas, mais je suis parti, j'avais le droit de tout faire. Alors on est parti, on a tout fait.
Bonjour les frères et sœurs, aujourd'hui je parle comme un ascenseur. J'ai besoin de ça pour prendre de la hauteur. Ça c'est juste pour faire un peu de rire. Ok. Aujourd'hui, émission très spéciale avec des invités.
Donc la première émission de hip-hop, qui est l'arrivée de Futura en France, qui était l'ambassadeur et qui... On va le chercher à l'aéroport, et puis on se met à danser dans l'aéroport, et puis après on l'amène à la Courneuve, et puis il fait un graffiti dans un terrain. C'était donc la première émission, et de là tout est parti.
Pour pouvoir bien assimiler le freeze ou le body pumping, j'ai un déplacement un peu dément que certainement tu connais déjà. Alors, pour toi qui veux tout comprendre, aujourd'hui je te le montre, le déplacement freeze. Regarde un peu.
On a reçu plein de gens, j'ai reçu à Bangkok, j'ai reçu des gens qui des activistes de la culture hip-hop. Et en même temps, donc il y a cette troisième partie, okay. Le défi, qui était donc, on faisait rencontrer, on était ces jeunes en valeur, filles ou garçons. On avait du mal à trouver des filles à l'époque, mais on en a trouvé deux ou trois. Et à la fin, donc une petite fête, ça durait vraiment 30 secondes, parce qu'en 14 minutes, expliquer tout cela, grand défi pour moi.
Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver encore à 14h pour swinguer sa copine. Ok, alright. Alors attention.
C'est vraiment comme ça se passait dans la rue, quoi. C'était on fait ça. Bon ben maintenant on danse, ok. Vas-y, c'est parti, c'est chacun son tour. Je disais, bon, voilà, ça va être un petit truc, mais je pensais pas que ça pouvait avoir cet impact-là.
On les applaudit quand même très très fort, les PCB, puisqu'ils sont là. Ok, les PCB qui ne sont pas membres.
Moi, ce à quoi ça amène, ça amène que je me retrouve à pouvoir faire une publicité. On me reconnaît dans la rue, c'est. Carrément, je passe de l'homme invisible à. On voit plus que moi, quoi. Tout d'un coup, moi, je me sens exister réellement en tant que personne.
Je
vais un courrier incessant, plus de 300 lettres par jour. Là, ça commence à être énorme. Avec des lettres, des petits dessins, des gens. Ça touchait tout le monde. On s'est dit, là, je crois qu'on touche tout le monde. Ma France Brian était très contente. Et cette émission a duré toute l'année. Donc c'est une émission qui était quand même gentille, où je pouvais pas dire n'importe quoi. C'était déjà très fort de dire bonjour les frères et sœurs. Mais c'est pas du goût de tout le monde, mais ça fait rien. On unifiait.
Il y a un trip, je dirais,
solo,
culturel, identitaire, dans lequel nous, jeunes blacks, ici à Paris... On se reconnaît là-dedans, quoi. Beaucoup plus que je dirais juste dans la musique africaine ou... C'est vraiment très... On est quand même vraiment très à l'affût de la culture américaine et du côté noir américain, super hype. Je dirais, il y a Superman, mais il y a aussi le super Blackos qui fait du roller. Je veux dire, le black américain a beaucoup d'attrait, quoi. Après, Huggy, les bons tuyaux, tous ces trucs-là. Voilà, l'idée que nous, on se fait du black américain, c'est quand même la classe. C'était la continuité de Fame qui passait à la télé et de regarder Leroy danser dans cette école où on faisait de la danse et ainsi de suite. C'est la classe.
Avant que ce truc-là débarque, il y a toute une partie de la France qui est invisible et qui n'est pas représentée, etc.
Bernard Zécry.
Le môme qui est en banlieue. À l'époque, il faut parler avec les gens, c'est fou. Hein, quand on parle avec des gens qui ont 40, 50 ans, la révolution que ça a été pour eux. La culture populaire ne tient pas compte de moi. Et là, bang, c'est la première fois. Les mecs voient des gars comme eux qui sont montrés à la télévision, qui pensent. Alors, on peut m'expliquer, de grands philosophes passent leur temps à ça, que c'est une culture de... Mais non, c'est une prise de parole. C'est tout d'un coup, je suis dans la société. Et voilà ce qui se passe.
Depuis 81, Mitterrand, l'ouverture des radios libres, le travail que faisait aussi Dynasty, Radio Nova,
Sydney,
tout le travail des journalistes d'actuels qui voulaient absolument faire émerger cette culture noire africaine, les Touré Kunda, Maurice Kanté, le grand Tropicadéro qu'a organisé Marie-France Bruyère devant la Tour Eiffel, que je présentais avec mon groupe. En plus, j'ai fait le générique en direct là avec mes musiciens. C'est un ouragan qui est en train d'arriver sur la France. On avait des groupes comme Nasser Gewan, le rail arrivait. Donc l'expression arrivait directement. Et on était tous solidaires. Donc j'ai présenté, je présentais à l'époque tous les spectacles d'SOS Racisme, Place de la République. Et moi, j'avais aucune idéologie politique. Moi, c'était la musique, le hip-hop, on m'appelait, j'avais pas.
Que j'aimais bien, bon, c'était l'époque où il y avait Africa Bambaataa qui ramenait que des messages de paix.
Natacha.
Le film Beast Street. Avec Grandmaster Flash, voilà, c'était le rap, c'était des messages, mais c'était des messages de paix, des messages de fusion entre personnes, de non-racisme, de tout ça, quoi. Non, et puis il y avait une union qui se faisait, quoi. Et là, les filles, elles commençaient à sortir aussi avec les blacks. On commençait à en voir de plus en plus, surtout chez les jeunes. Et c'est vrai que même moi, à l'époque, j'allais en cité, alors que j'étais, bon, j'ai pas grandi dans une cité, mais j'y allais comme ça pour aller danser dehors en bas des immeubles, quoi.
Quand je dansais au Centre Paparabane, je rencontrais tous les acteurs.
Gabin Nussier.
Tous les groupes étaient là. On nous a pas dit payer votre cotisation pour venir, c'était gratuit. Je pouvais venir à 9h et partir le soir jusqu'à 22h, 23h. Tropic FM se trouvait dans cette salle Paco Rabanne. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que Paco Rabanne, c'est quelqu'un qui soutenait la culture africaine. Et quand il a eu l'opportunité de découvrir la culture hip-hop, ça a été pour lui quelque chose de bien, parce que c'est une culture de métissage. Il disait, oui Gabin, mais t'as super progressé.
Eh ben ça c'est rien, c'est qu'un échantillon qui est malheureusement très court, en espérant bien sûr que bientôt on pourra vous donner une heure de nouvelles danses comme ça, il y a le maximum. Moi je vous donne
et en septembre, l'émission TF1 marchait tellement bien qu'ils ont voulu la déprogrammer, la mettre le mercredi et à un autre horaire. Alors ce qui s'est passé, nous on était un peu déçus, on l'a fait, et forcément on dit ouais, tiens, vous faites moins d'audience qu'avant. Forcément, c'est plus le dimanche après Starkey et Hutch. Je pense que TF1 voulait plus trop cette émission, donc on a décidé d'arrêter nous-mêmes. Au mois de décembre, on s'est dit de toute façon, ça y est. Moi, je faisais quelques spectacles, je voyais que tous les jeunes savaient danser. Je me suis dit, bon, ça va continuer, on va faire ça, on va faire des spectacles, après on fera autre chose, c'est pas grave. Mais toutes les portes se sont verrouillées. Notamment les jeunes, c'était difficile pour eux. Tant qu'il y avait l'émission, on trouvait des petits gars là, ils arrivaient à faire des trucs de danse à droite et à gauche. Quand l'émission s'est arrêtée, toutes les portes se sont fermées, aussi bien pour eux que pour moi. Quoi, un concert de hip-hop, oh là là, il va y avoir des bagarres. Mais le hip-hop a pris, est tombé dans le creux de la vague. Il est remonté par sa propre force. Les jeunes se sont retrouvés dans la rue, dans les concerts, live, avec des groupes américains qui sont venus.
C'est-à-dire du jour au lendemain, il n'y avait absolument plus rien, mais plus rien du tout.
Dynasty.
Sinon, quelques trucs sur des radios libres que j'essayais d'animer à droite à gauche, du coup, je faisais la tournée. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai été chercher mes disques à Londres pour revenir en France et montrer que tout ça n'était pas mort, que ça continuait.
J'avais gagné de l'argent et j'avais vécu avec ça pendant un certain laps de temps.
Solo.
Puis d'un coup, il y a quand même un vrai ralentissement. Et je me dis, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Rapper, c'est pas ce qui me vient tout de suite, mais comme je suis beaucoup dans la musique au travers de la danse, je me dis, bon, ben je vais essayer d'apprendre à faire de la musique. Comme l'importance du DJ était assez présente, je me suis dit, oui, je vais apprendre quand même à mixer.
Donc j'étais à Arc-en-Ciel, après j'étais à Rosny-sous-Bois, j'étais à Carbone 14. Donc Bad Bunny, moi, notre gars qui s'appelait Kamel, on était vraiment très peu. On a essayé, nous, de diffuser un rap en français, ce qui était très mal vu au départ, mais on a persisté. Au début en faisant des adaptations, après en faisant nos propres textes. C'est comme ça qu'on a vraiment écrit les premières lettres de rap français.
La plupart des rappeurs, ils rappaient en anglais. Et puis d'un coup, tu as les Johnny Go, des Stryman qui commençaient à balancer. Hey, les amis, nous sommes ici en France, comment ça ? C'était violent. Il faut qu'on rappe en français maintenant, soyons français.
Mais c'était vraiment difficile. Et en fait, ce qui, à mes yeux, a ressoudé tout le monde, c'est les graffitis. C'est déjà les tags et les graphes. Donc c'est l'arrivée de Bando en France. Tout le monde a essayé de savoir mais Bando, où il est, comment on prend contact avec lui, et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, avec un graffeur qui s'appelait Popcorn à l'époque, qui s'est appelé Colt par la suite, qui a fait les logos d'NTM et d'Assassin. Donc on a réussi à le retrouver, et moi je faisais partie d'un groupe de graphes qui s'appelait les Ugly Three, et on graffait à Blanc-Ménil essentiellement.
Il y avait le truc de se laisser enfermer dans le même métro ou avoir les clés du métro.
Motu rencontre les premiers graffeurs en Angleterre. Il plonge la tête la première et recouvre les murs entre Londres et Paris.
C'est pas genre des terrains ou les voies ferrées ou les murs sur la petite ceinture. Partout où il y avait des surfaces à peindre. Si nous étions à plusieurs, c'est quelqu'un fait les premiers contours pendant que l'autre commence à faire le fond, et après il y a l'équipe qui remplisse pendant que l'autre continue, et certains font des personnages à côté en même temps. Après il y a la personne qui est là pour faire les derniers contours, quoi. Il n'y a jamais quelqu'un qui est là les mains dans les poches, quoi. Genre on se partageait vraiment les tâches pour des spots parfois où on ne pouvait pas rester longtemps, quoi.
Moi j'étais coursier à ce moment-là et
Dynastie.
J'adorais voir que Boxer, Squat, Sign, les noms de l'époque, étaient en train de couvrir toutes les armoires électriques qu'il y a au feu rouge. Voilà, ils ont fait le quadrillage de Paris, ils ont commencé à couvrir ça. Et puis après, il y a eu l'émergence des BBC, et puis la découverte du terrain vague, qui a été d'abord un lieu de réunion des graffeurs. Et comme je graffais encore à ce moment-là, donc j'y étais, et je me suis dit, bah, il manque plus que la musique ici, quoi.
Pour le graphe, je sais que le terrain vague de Stalingrad a joué un rôle central.
Jaywan, lycéen malheureux, est coincé dans une filière de dessin industriel quand il croise la route du graffiti. Avant cela, il faisait des pochoirs punk.
On était isolés, nous, les graffeurs, les acteurs de ce mouvement, qu'on était dans le terrain vague. Donc on était cachés au vu des passants. Mais les graphes, ils étaient visibles du métro. Et de ce que j'ai entendu, c'est que beaucoup de collégiens qui habitaient soit à la banlieue ou Paris, quand ils prenaient le métro pour aller à l'école ou au collège, ils ont vu les graphes. C'est comme ça qu'ils ont découvert le graffiti pour certains ou le hip-hop pour d'autres. Donc il y en a un, deux, trois qui sont venus, ensuite beaucoup plus. Dynastie, qui habitait déjà le quartier, lui s'est rendu compte de la potentialité de cet endroit. Il a décidé avec un des graffeurs, Webo, qui était aussi DJ, de faire ce qu'on appelle une block party.
Donc à l'époque, le terrain appartenait à la femme de Georges Pompidou. Donc c'était une ancienne usine qui avait été détruite et il restait un bon bout de carrelage. ce qui permettait aux danseurs de briquer dessus. Et puis c'est un terrain qui était investi par les graffeurs, notamment les BBC. Donc les free jams, j'appelais ça comme ça, c'était pas des block parties, c'était des free jams. Ça coûtait 2 francs pour rentrer, donc il y avait des potes, un gars qui s'appelait Majesty, qui était avec leur Kangol et qui, dès qu'il y a quelqu'un qui passait par-dessus, hop, il faut donner ses 2 francs. C'était pour payer l'essence du groupe électrogène, parce que je venais avec toute ma sono, groupe électrogène, tout ça, je passais par-dessus, d'autres qui étaient derrière, qui récupéraient ça, et puis voilà, on faisait comme on pouvait, quoi. Ça démarrait vers 1h de l'après-midi, jusqu'à 19h, 20h. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence dans le groupe électrogène. Voilà.
Et les gens dansaient,
les gens dansaient, rappaient. Je laissais ceux qui voulaient passer aux platines.
Le public qui venait, les gens, ils étaient prévenus par quoi? Par le bouche à oreille?
Moi, je mettais des prospectus, on appelait pas ça encore flyers, dans les différentes FNAC entre les disques des bacs funk et rap. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait savoir. Yacine Neck en parlait dans son émission qu'il avait Radio 7 à ce moment-là.
Donc ça a fédéré un petit peu le hip-hop d'une manière nouvelle. Donc c'était un hip-hop, on va dire, un peu nouveau, qui était plus présent dans la rue, donc, pour le coup. Donc qui était un peu plus ressemblant à ce qui s'était passé réellement à New York, parce que ça passait plus par la télévision. Là, c'était nous qui prenions en main notre destin et notre culture. Donc le hip-hop, il a commencé à... Il a ressuscité donc, dans ce terrain vague, en quelque sorte. Et à partir de ce terrain vague, qui est devenu un lieu central, où les gens y venaient, y passaient. Voilà, on passait là, on passait 5 minutes, on échangeait. Mais c'était un endroit assez important, parce que c'était une sorte de social club. Donc il y en avait qui y allaient régulièrement, il y en a qui étaient plus spécialisés dans la musique, qui achetaient des disques, qui les empruntaient à la FNAC. On a commencé à se cultiver nous-mêmes dans ce terrain vague, parce que c'était l'endroit où toutes les disciplines se retrouvaient.
Et je dirais que limite, à un moment, ça a été la mecque du hip-hop européen. Comme je dirais aux États-Unis, il y a eu le Roxy, où il y avait le Bronx River Center. Et ben à Paris, il y avait le terrain vague de la Chapelle. Et surtout, qui n'appartient à personne. Qui appartient pas à la ville, qui appartient pas, c'est pas les institutions qui encadraient le. En fait, que tous les gens qui étaient dans le hip-hop se sont appropriés. Il y avait un endroit où tu pouvais avoir accès à tout. En tout cas, rencontrer les gens qui allaient te dire, ah ben voilà, si tu veux t'acheter des Fat Lassies, c'est là-bas chez Ticarette, juste à côté. Tout ce qui faisait la panoplie du hip-hopper parfait ou du b-boy parfait, je devrais dire. C'était chez Ticarette, quoi.
On avait une sorte de routine, donc on sortait du lycée professionnel, on allait donc au Louvre ou au terrain vague, on faisait quelques rencontres et on allait directement à la librairie d'art curial, à l'époque, qui était rue Saint-Honoré, je crois. Et là, on regardait des livres d'art. Mais là, je parle de 5-6 graffeurs.
G1.
Mais on trouvait aussi on trouvait du pop art qui était assez proche visuellement du graphe. Et là, on s'est fait une éducation. On apprenait l'histoire de l'art entre nous, quoi, comme ça, en allant à Art Curial, en échangeant et en regardant ses livres. C'est là qu'on a découvert les premiers livres sur le graphe. Subway Art, Spreken Art et tout ça. On voulait être artiste, ça c'est sûr, puisqu'on allait chez Art Curial, mais on n'avait aucune idée de ce que ça impliquait, puisqu'on faisait aussi de la bande dessinée.
L'impasse Bergère, à côté du Palace, nous avions fait ça en non autorisé. Nous sommes venus, je sais pas, c'était 4 soirs de suite, un truc comme ça, 5 soirs de suite.
Mode tout.
Début août 87. Et à la fin, le dernier soir, quand nous terminions, il y avait les gens qui habitaient en face, qui étaient à leur fenêtre, qui applaudissaient, quoi. Donc on a passé 4 nuits en plein Paris à peindre un mur. Assez grand et qui restait par la suite des années. Il y avait même des cars de touristes qui venaient le voir, quoi. Donc Colt, il avait fait un public, moi j'avais fait un 156 en lettres tuyaux au-dessus. Il y avait un mec grand, genre de b-boy avec un Uzi à la main du côté droit, quoi. Genre qui faisait, c'est pas 3 mètres de haut, un truc comme ça, quoi. Donc c'était avant les trucs super revendicatifs. Là, c'était juste on s'amusait, on faisait ce qu'on voulait.
Ce mouvement, il n'est pas né juste sur l'aspect de revendication. Bien au contraire, il est beaucoup plus né sur l'aspect de fraternité et festif. 88, quand Public Enemy arrive, c'est là que la revendication arrive, mais de manière directe. Avant ça, il n'y a pas cet aspect-là.
De mixer. On a eu la chance d'avoir Bambata qui passait régulièrement à Paris, donc soit par Sydney ou Radio 7. Et lui, c'était quand même dans son discours. Il expliquait régulièrement que le hip-hop, la Zulu Nation, c'était quelque chose d'universel et qu'il fallait tout accepter en tant que culture et tout était bon à prendre et il fallait juste essayer de s'exprimer. Il avait une phrase qui assez forte qui dit... l'énergie négative, donc là il parle du ghetto, de prendre cette énergie négative et de la tourner en énergie positive. Donc la société ne veut pas de vous, donc, mais vous avez droit à certaines choses. Prenez-les et faites quelque chose avec. Donc nous en France, ça nous a aidé à adapter la culture hip-hop à ce qu'on vivait ici. Say, what's the name of this nation? Zulu, Zulu. Moi, j'avais quoi, 16, 17. Pour les plus jeunes, ils avaient peut-être 14, 15. Donc, il y a quand même un petit fossé. On n'a pas les mêmes problématiques que les plus grands qui ont 20 ans ou 25 ans. Moi, je sais que vis-à-vis de mes cousins, qui étaient les plus âgés autour de la famille, ils étaient plus dans la revendication forte, quoi. Ils écoutaient du reggae, ils étaient très loin. Sydney, on ne le voyait pas comme étant le premier présentateur black. On le voyait comme... voilà, un présentateur qui fait son émission. Et au fur et à mesure, nous aussi, on prend conscience de tout ça et on développe une conscience plus politique. Et ça, c'est plus vers la fin des années 80. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et savoir que nous, on n'allait pas à l'université. Ce n'était pas notre cas. Nous, on allait au collège, on était des losers. Donc, on n'avait pas ce rapport avec la politique. C'est arrivé beaucoup plus tard. Donc, on était vraiment déconnectés. Même SOS Racisme, on n'était pas... Ça ne nous concerne pas à l'époque, ce genre de choses. Et même, c'était pour nous une forme déjà de... pas de récupération, mais on ne voulait rien avoir avec la politique. C'était vraiment quelque chose qui nous touchait pas, quoi.
Bon, maintenant, il a un profil un peu différent de tous les autres rappeurs. Il faut dire les choses comme elles sont.
Bernard Zeke.
Alors, c'est fait de briques et de broc, hein, sa culture. Il faut quand même être conscient de ça. Mais je veux dire, il a une conscience politique... Et puis il a voyagé, c'est le seul, il a été en Afrique, il a été... Et donc c'est le seul qui mélange les musiques, qui est vraiment très ouvert. Le fait aussi que lui, il avait une vraie curiosité pour la France, mais aussi un vrai désir de se rapprocher des gens dans les banlieues françaises, etc. Pour tous les autres rappeurs, c'était vraiment exotique, c'est la carte postale, quoi. Mais lui, il avait une démarche assez différente et ça a pris tout de suite. Dès le premier voyage, ou le deuxième... La Zulu Nation existe en France. C'est-à-dire qu'en banlieue se constitue, et la Zulu Nation existe toujours aujourd'hui, et Bambata vient régulièrement, et personne ne le sait d'ailleurs, mais enfin il fait des trucs en banlieue où il y a 3000 personnes, et tout ça.
Enfin, il y a eu plusieurs passages de Bambata, et donc il a nommé plein de gens. Mais vraiment plein.
Dynastie.
Des gens qui ont pris ça comme ça. Et donc, il y a eu Sydney, il y a eu Solo. Moi, j'ai été chercher mon titre. Je ne l'ai pas reçu. J'ai été chercher entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai été à New York et j'ai rencontré Africa Islam. Donc, j'ai pris ça très au sérieux. Je suis revenu en France. Au fil du temps, ça a été moi le plus activiste. Et je suis encore. La nation Zulu américaine s'est un peu perdue dans des choses très presque sectaire. Il suffit d'aller sur le site pour s'en rendre compte. Les conseils de lecture, des trucs comme ça. Nous, on ne se permet pas de faire ces choses-là. On veut que ça reste hip-hop.
Parce que si on rentre dans l'histoire de Mambata, c'est dur, Mambata. C'est Nation of Islam. C'est pas... Ça rigole pas, hein. Nation of Zulu, c'est un truc pacifiste, vraiment ouvert et tout ça. Personne ne va chahuter Zulu Nation à New York. On sait ce que c'est aussi. Parce qu'on est quand même dans un certain univers. Et c'est quand même la reconversion d'un gang qui était très puissant, The Black Spade. Alors c'est plus ça. Enfin, Mambata n'est pas dans une histoire... C'est pas un caïd, c'est pas un mafieux, c'est une bonne personne. Enfin, les choses qu'il met en avant, c'est pas la violence, il est très ouvert, il est pas du tout raciste, etc. Et en même temps, il est sur les positions dures de Nation of Islam. Tout ça, je suis pas sûr que la traduction soit passée de façon correcte et comprise en France. Même par rapport aux gens qui ont fait la Zulu Nation.
Au début, on a rencontré la danse, c'était Peace, Love.
Gabin Huissier.
Après, on a vu Brest Suite 84, Beat Suite. Quand on a vu Beat Suite, c'était le défi. Donc tout de suite, on s'est mis aussi en groupe. Il fallait, on se met en groupe, on va se défier, viens, on va se défier. Bah, 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 et ça a commencé comme ça. Après, on a eu ce film Warriors qui est sorti. Warriors dans les écoles, les gens. Là. Et là, on a commencé à voir nos amis, certains breakers, qui sont partis un petit peu, on va pas dire travers, mais c'est un peu ça. Il n'y a pas eu vraiment de violence. On a aussi des vies un petit peu délicates. Donc ça veut dire qu'on a des moments de travers. Mais je crois que la culture nous a tous fait du bien.
Public Ennemi, c'est la première prise de conscience. On reste dans la fête et ainsi de suite, mais on est quand même des Noirs et des Noirs. En tout cas, on est des descendants d'esclaves pour ceux qui sont aux États-Unis. Et de toutes les manières, en tant que Noirs, on a toujours été exploités. Ça, c'est le premier réveil. Et c'est aussi quelque chose auquel nous, en tant que immigrés deuxième génération, on s'identifie. Moi, personnellement, en tant qu'Afropéen, puisque je me considère comme tel, je savais très bien qu'on n'était pas du tout dans le même contexte. Mais par contre, pour tout ce qu'il y avait, il y avait des similitudes, mais pas dans la forme exacte. Entre le colonialisme et l'esclavage, on n'est pas si loin que ça. Et dans l'exploitation et surtout la reconnaissance de ces faits-là, historiquement parlant, il y a quelque chose qui, dans le discours de Public Ennemi, pour moi, c'est exactement la même chose. Mais c'est juste une histoire de contexte. On s'identifie sur le fait de, on a toujours été exploité et bizarrement, aujourd'hui, on n'a toujours pas très haut chapitre. C'est ok, d'accord, c'est la fête, mais nous aussi on veut notre part du gâteau, quoi. Et là, effectivement, le discours change.
Les Noirs américains sont issus d'une culture d'esclaves et de descendants d'esclaves qui sont restés bloqués sur un continent pendant 400 ans.
Mode tout.
Ceux qui venaient des îles. Des Caraïbes ou des Antilles, c'est pas comme Jay, tout ça, genre, ou moi qui venais de l'île Maurice et qui avait grandi à Londres, on avait eu toute une autre compréhension de la situation de l'homme noir, quoi. Et ceux qui venaient, mais c'est pas, il y avait des. C'est pas Sénégalais, tout ça, à Paris, qui s'appelaient machin X, quand ils se rendent pas compte, mais écoute, mec, t'as déjà un nom d'origine, t'as pas besoin d'aller mettre un X à ton nom. Genre, les autres, ils mettent des X parce qu'ils ont perdu leur nom d'origine, les Américains. Donc, les crises d'identité, parce qu'il y a des personnes qui voulaient vraiment être tout américain. Nous nous sommes rendus compte à un moment, même à Londres à l'époque, qu'il fallait que nous définissions notre propre identité à nous, quoi, qu'on ne va jamais pouvoir répliquer et faire comme les New Yorkais, parce que nous n'avons pas grandi à New York à cette époque-là, dans ces circonstances-là.
Et puisque c'est là que le monde la connaît, on voudrait vous entendre reprendre le refrain après nous. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient.
Là, on passe à un système de confrontation et de confrontation directe, et aussi de misère. Tout est confronté à la misère. On ne gagne plus d'argent avec le hip-hop comme on a pu en gagner pendant ces 4 ou 5 années. Donc voilà, si tu veux des belles baskets, il faut pouvoir se les payer. Si tu habites en banlieue, que tes parents n'ont pas d'argent, que toi-même tu ne travailles pas, ça devient une galère. Donc si tu vas au terrain vague et que quelqu'un passe par là et qu'il a le dernier truc qui, et qu'en plus il a le malheur d'être tout seul ou de ne pas parler français, eh ben, y en a qui vont se servir là où il... Voilà. Donc cet aspect-là aussi revient. On va dire que la violence de la société ou de la vie en général reprend ses droits. Et là, on commence à avoir des confrontations aussi, que ce soit au travers de la danse et ainsi de suite, qui se termine avec les mains. Et que les bandes, ça revient et ça reprend son... Et donc, la violence reprend ses droits. Les années 80, c'est quand même les années... vas-y, t'as l'impression que tout est possible, quoi. C'est l'explosion de la mode pour tout le monde. C'est limite, on fait croire que tout le monde a accès à tout. Et puis tout d'un coup, au milieu des années 80, tu te dis, ah ouais, mais non, mais c'est pas tout le monde a accès à tout, quoi. Dans certaines villes, il y a certains départements où franchement, c'est pas la joie, quoi. Ça tourne, ça part vite en sucette, comme on dit, quoi. On est passé de celui qui tourne sur la tête et qui tourne sur le dos à celui qui prend le micro. Et celui qui prend le micro, tout d'un coup, avec tout ce qui s'est passé, il a des choses à dire. Et en plus, il y a des gens qui montrent la voix, comme Public Enemy ou comme... Run-DMC, LL Cool J, les Beastie Boys, ça ouvre la porte au raz-de-marée que va devenir le rap français, quoi. Mais on y met notre identité.
Yo, Assassin Suprême NTM numéro 1, au contrôle ce soir sur Nova. Roi, yeah, roi. Squad K, Lucien Dewey Star.
Ok, on est là pour donner un peu les lyrics.
Ouais.
Tu comprends ?
Alors tous les toys à vos cassettes.
On utilise la langue française et qu'au départ, si on y prête attention, on n'est pas là à juste venir rapper pour rapper en argot ou quelque chose qui soit vraiment très connoté de notre couche sociale. Bien au contraire, on utilise la langue française pour sortir des clichés qui nous mettent dans une certaine case. On n'essayait pas de se renfermer. Bien au contraire, on essayait de s'ouvrir au monde et aux autres.
Comment ça a commencé, Dynasty, l'émission que vous avez eue à Radio Nova?
Alors, ça a commencé en 87. Je croise Bernard Zikri en studio, au studio de la Madeleine. Il s'occupait de Destroy Man et Johnny Go, justement. Et il m'a dit, bon, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir une émission sur Radio Nova? J'ai dit, évidemment. Et puis après, j'ai eu une demi-heure tous les jours. Et puis après, j'ai perdu l'émission, et puis après, je l'ai re-eu, et puis après, je l'ai reperdu, je l'ai re-eu, on m'a viré, on m'a repris, on m'a viré, on m'a repris. Donc, fin 88, je récupère l'émission, mais on... et donc, on a 2 heures d'émission le dimanche soir, 10h minuit. Donc, on se dit, bon, on fait 1 heure avec les nouveautés, et puis on se dit, bon, bah, on va faire 1 heure, puis on va inviter tous ceux qu'on connaît qui rappent et qui rappent bien. Donc ça a commencé avec tous les gars de Vitry, JM, les New Generation de Châtillon, Nostalgie, voilà. Et on commence comme ça.
Relancé par le flow, j'instaure la prose. Prose, symphonie de rimes. Réhaussant avec prestance.
Et ça prend vraiment forme, et en l'espace de 1 mois, on se retrouve avec 50 personnes qui attendent dehors. Et là, on est tout. Lionel et moi pour gérer tout ça.
Chaque terme, accessible à tous, à tout moment. Par ma voix, mon rap devient puissant. Il est présent, il te prend, il t'enlace.
Et là, c'était vraiment. Quand on écoute les textes aujourd'hui des émissions, je sais qu'il y en a pas mal sur Internet. Bah, ce qui était super, c'est que bah, toujours pas de vulgarité, mais toujours du langage de rue, mais très politique. Il y a des histoires de vie, des trucs fantasmés, enfin, c'était vraiment très chouette, c'était frais, c'était, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de méchanceté.
Avant de reprendre, une dédicace à mon partenaire solo. Yeah, solo, tu m'écoutes, donc une dédicace pour ta face. Aussi une dédicace à mon DJ Fly D.
Avec la danse, on avait déjà franchi un point. On était arrivé jusqu'à un certain point, mais il y avait encore quelque chose qui était d'une forme de ghettoïsation. Ça restait un truc de galérien, on va dire. Mais avec le rap, vu qu'on se posait au travers de la parole et qu'il y avait quelque chose qui était une forme d'analyse aussi, et la comptine urbaine du quotidien de chacun ou de ce qu'il vivait, ça avait de l'attrait pour l'autre, pour ceux qui n'étaient pas dedans. On pouvait rentrer dans un voyage au travers de ce que quelqu'un disait.
1983-84, déjà dans la rue, je laissais ma marque. Pendant des nuits entières, à défoncer les quartiers. L'encre a tellement dégouliné pendant toutes ces années.
Une fois qu'ils se sont rendus compte que de toute manière, à part Solar, personne ne serait pris pour des poètes et dont l'écriture serait trouvée intéressante, et ben à ce moment-là, on va parler plus crûment, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est aussi par rejet du reste de la société aussi, que vous dites, ah ouais, ok, on nous prend pour des illettrés, et ben on va dire des enculés, nique ta mère, pendant tous les morceaux. Puis voilà. Pour beaucoup, c'est des gens qui vivent vraiment ce qu'ils racontent. Et donc, c'est des témoignages, je pense, importants.
Des gens qui ont l'énergie pour se sortir d'où ils sont et pour dire quelque chose, c'est quand même qu'ils ont quelque chose à dire. Donc, c'est forcément intéressant. Il n'y a pas... Mais toujours pareil, c'est le manque de nuances, le fait que les politiques récupèrent ça, donc ça sert pour... Donc, la façon de le présenter dans les médias... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui sont formidables. Donc, c'est très bien. Puis, il y en a qui réussissent de façon fantastique et que je n'apprécie pas du tout. Mais c'est très bien. Ça, moi, ça me plaît que ce soit comme ça.
Pendant les grands travaux qu'il y avait au Louvre, il y avait des palissades, donc on avait aussi investi dans ces lieux. C'était pas très loin des Beaux-Arts. Et je me rappelle du premier graphe que j'ai fait devant le Louvre, qui est un lieu emblématique quand même pour la culture française. On avait écrit le mot Sphinx, et moi j'avais fait les lettres, et Ski, il avait fait les deux personnages, et c'est aussi c'est l'image que j'ai le lendemain en revenant voir mon graphe. Donc il y a les palissades, le graphe, et derrière on voit une des tours du Louvre.
Merci à Dynasty, J1, Jean Caracos, Mode 2, Natacha, Gabin Nuissier, Solo, Sydney et Bernard Zécry. Merci aussi à H, David Benamou pour Maquisard, DJ Sec, Mathieu Conquet et la galerie Sgt Pepper. Mixage, Benjamin Vignal, du Bronx au terrain vague de la Chapelle, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Renaud Dalmar. And there were writers in the past who I bet if you asked would say graffiti cannot last. But they crossed that rail and they blazed that.
Comme d'habitude, vous pourrez réécouter cette émission sur la page de la Fabrique de l'Histoire sur le site de France Culture pendant 1000 jours et la télécharger toute l'année qui suit sa diffusion. Mais à la différence des habitudes, vous pouvez également écouter sur cette même page une vingtaine de titres majeurs des débuts du rap, sélectionnés par Antoine Villos de la documentation musicale de Radio France et Renaud Dalmar.